Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous qui fait coup double chaque soir en premium. C'est à 18h sur franceinter.fr et donc en podcast, ou alors la version grand classique, grand répertoire, 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, émission mythique et mytho, Raphaël Baquet, grand reporter, a mené l'enquête sur Karl Lagerfeld, sculpture de soi, bon mot, érudition, technicien hors pair. Lagerfeld aura été le mercenaire de la mode? Non, son Kaiser. Raphaël Baquet, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, une voix, une virtuose, Gaëlle Arquez, mezzo-soprane, se sacrifie en Iphigénie dans l'opéra de Gluck. Non, pas un opéra, le sommet de la tragédie lyrique. Et donc encore un rôle de tragédienne pour vous, Gaëlle Arquez. Bonsoir.
Bonsoir.
L'algorithme, Marion Guilbeault?
Du piano, du solo et peut-être même du Rulio, c'est l'algorithme musical de Raphaël Baquet.
Ah bah s'il y a du Rulio, je reste, j'adore, très bien. Et le grand retour de Soro Solo, qu'on avait perdu dans les aéroports, pour sa chronique L'Afrique en solo, ce soir, on part où?
On part à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour le festival Djavkis, où on va découvrir Lova Lova.
Et dans le Énervé la suite, c'est autre programme, hein. Algues vertes, pollution, plastique. Vous aviez un super titre, L'océan a le mal de mer. Bravo Benoît Lagan.
Ou la mer à mort aussi. Pour se énerver la suite, et oui, effectivement, entre pollution plastique et algues vertes. Et pour en parler, Inès Leroux, documentariste, journaliste qui enquête sur les algues vertes. Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement. Élodie Martini-Cousty de France Nature Environnement. Et Yann Kefelec, l'écrivain amoureux de la Bretagne et de la mer, ça tombe bien.
Et bien c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Une enquête et un sacrifice au programme ce soir avec nos deux invités. Raphaël Baquet déshabille Karl Lagerfeld. Et vous, Gaëlle Arquez, vous voulez chanter Iphigénie en torride au Théâtre des Champs-Élysées à Paris dans une mise en scène de Robert Carsen. Et comme quoi les choses sont bien faites, vous avez ça en commun. Car demain, l'hommage Karl Lagerfeld au Grand Palais, qui est-ce qui le signe? Robert Carsen. C'est vraiment excellent. Bravo à notre programmatrice que je vois à travers la vitre de la technique. Vous êtes invité pour demain?
Oui, finalement, je suis invitée.
Et, ouais, je me suis dit,
et c'est un exploit.
Ah oui, pas forcément, quoi.
Car c'était compliqué, mais oui, finalement.
Pourquoi c'était compliqué?
Bah parce que c'est vrai que à la fois Chanel et LVMH étaient partagés sur l'idée d'une enquête sur Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, c'était d'abord évidemment leur modèle et leur image, et donc évidemment ils sont soucieux qu'aucune fracture, qu'aucun détail ne puisse endommager l'image. Mais moi, je crois que cette image, même avec ses revers, elle est éminemment romanesque.
Bien sûr,
c'est ça qui en fait un personnage très riche.
Dans ce que vous révélez, d'ailleurs, que vous aviez déjà plus ou moins révélé dans la série d'articles, le reportage que vous lui avez consacré, il y a des choses qui les ont particulièrement fait tiquer?
En fait, c'est tout à fait inattendu pour moi parce que ça relève de l'histoire, mais ce qui est le plus gênant à la fois pour Chanel comme ça l'était pour Karl Lagerfeld, c'est le récit de son passé et de l'attitude de son père pendant la guerre.
Voilà. Reste un grand mystère. Ouais.
Je révèle à quel point son père a été ambivalent et même compromis, si vous voulez, avec le régime pour continuer à diriger son entreprise. Et c'est vrai que ça renvoie aussi au comportement de Coco Chanel elle-même. Et pour la famille Wertheimer, qui elle-même a fui les nazis pendant la guerre, c'est une histoire qui n'est toujours pas tout à fait à digérer.
Karl Lagerfeld, ça vous dit quelque chose, Gaëlle
Arquez?
Oui,
quand même.
Quelle image?
Quelle image?
Ouais, quelle image vous avez de lui?
Ah ben d'abord il y a le couturier évidemment, et puis il y a le personnage qui est très fascinant, c'est-à-dire que avec ses lunettes, avec ses gants, ses cols très hauts, il avait tout de suite un charisme très 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 singulier et très très original. Et puis évidemment tout ce qu'il a fait dans ses collections, magnifique évidemment.
Alors on parlera des collections aussi. C'est marrant que vous citiez le couturier avant le personnage, parce que généralement c'est l'inverse qui est fait. L'année dernière en août, vous aviez déjà signé un reportage fleuve, hein, sur 6 épisodes sur les visages de Karl Lagerfeld. Aujourd'hui une bio, il fallait ajouter quelque chose, Raphaël Baquet?
Ah oui, beaucoup de choses à vrai dire, parce que la série fait à peine un quart du livre.
On apprenait plein de choses, le fait qu'il s'appelait, qu'il faisait appeler
Roland Lagerfeld au départ, ouais. Ouais, dans les premiers entretiens.
Non, mais il a une vie incroyablement riche, tumultueuse, une façon aussi d'avoir raconté sa légende et les multiples mensonges qu'il a additionnés tout au long de son parcours, évidemment, donnent une espèce de profondeur au personnage. Il y avait ses amours particulières, il y avait sa rivalité avec Saint-Laurent dans laquelle il fallait plonger plus avant, et il y avait aussi son rôle dans l'industrie de la mode, c'est-à-dire que il est à la fois un homme de mode, il est plus que cela, mais il aura vraiment accompagné un changement fondamental qui est celui de la mondialisation.
Est-ce que les gens ont eu plus de facilité à parler après sa disparition? Parce que je rappelle, quand vous avez mené votre enquête pour les besoins du journal Le Monde, il était encore vivant. Et depuis qu'il a disparu, est-ce que les langues se délient?
Oui, alors je dois dire qu'il y a vraiment un avant et un après sa mort. J'ai commencé cette enquête il y a 2 ans, et donc j'avais déjà vu énormément de gens. Il y avait des témoins qui avaient refusé de me parler, quelques-uns, et puis d'autres qui avaient tenu, disons, un discours plus lénifiant. Et c'est vrai qu'après sa disparition, je dois dire que les langues se sont déliées. Et c'est à cela qu'on reconnaît vraiment un homme de pouvoir. Même si c'était pas des choses inavouables,
ah non, pas
si
du
vous
tout,
voulez,
en plus,
mais c'était un personnage probablement plus dur aussi et plus cruel que l'image qu'il voulait bien laisser paraître.
À son entourage. On va revenir sur ce dossier dans quelques instants avec vous. Gaëlle Arquez, vous chantez Iphigénie en Tauride, donc pour vous une tragédie lyrique de Gluck, un compositeur que vous connaissez bien, puisque vous avez chanté son Iphigénie en Aulide. Alors, c'est quoi la différence Iphigénie en Tauride, ça c'est au Théâtre des Champs-Élysées, et Iphigénie en Aulide? Vous aviez chanté Clytemnestre hein, dans ce...
Alors, j'ai enregistré, en fait, dans mon premier album, un extrait donc, de Iphigénie en Aulide, mais j'ai surtout interprété Armide il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. C'était mes débuts au Staatsoper de Vienne. Et donc, là, pour moi, c'était le saut dans le vide, parce que c'était la première fois que j'abordais vraiment sa musique. Et c'était donc un rôle-titre. Et j'ai pu en fait apprivoiser ce langage musical et je me suis rendu compte, j'ai découvert tout un univers qui est vraiment magnifique et avec un texte qui est vraiment mis en valeur. Donc ça, pour l'artiste, pour l'interprète, c'est un vrai plaisir.
Mais c'est quoi la différence entre Iphigénie en Tauride et Iphigénie en Aulide?
C'est quoi? Alors c'est les épisodes après.
C'est des épisodes
voilà,
après,
oui.
C'est l'un qui suit l'autre. C'est un rôle de... Vous êtes mezzo-soprano.
Oui, tout à fait.
C'est un rôle qui est généralement distribué à des sopranos.
Oui.
Vous avez eu une appréhension au départ?
Tout à fait.
Ah, ouais.
Au départ, c'était vraiment... une crainte, parce que je me suis dit que ça n'allait pas correspondre à ma voix. J'avais une image vocale sopranisante, c'est-à-dire beaucoup plus aiguë, avec des couleurs plus brillantes. Et puis donc est arrivé Armide il y a 2 ans, parce que cette proposition de faire Iphigénie est arrivée il y a plus de 3 ans, donc ma voix a changé entre-temps. Il a fallu aussi une rencontre avec le chef d'orchestre pour tester, en fait, pour tester ma couleur vocale, tester aussi le diapason de l'orchestre. Parce que là, on est dans, on va dire, au carrefour entre le répertoire baroque et classique. Donc, il y a des instruments anciens. Donc, le choix du diapason, de savoir si c'était plus ou moins grave, comment adapter avec donc l'instrumentation. Et puis, cette expérience, donc il y a 3 ans d'Armide, m'a permis
de
aujourd'hui,
voir que vous pouviez assurer
voilà.
Ça.
Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori que la chanteuse qui avait créé le rôle d'Armide avait également créé le rôle d'Iphigénie. Donc il y avait une certaine logique, et en plus dans la chronologie, ça tombait parfaitement.
Encore un rôle de tragédienne, c'est ce que je disais dans le générique, vous les collectionnez? On rit pas à
que
l'opéra avec vous.
Que voulez-vous? J'aime faire pleurer.
Vous avez fait quand même la Grande Duchesse de Gerolstein.
J'ai non, fait vous... La Belle Hélène.
La Belle Hélène, c'est ça. La Belle Hélène, oui.
Il faut des contre-pieds, parce que sinon, c'est vrai que d'instinct, j'aime plutôt les choses tristes. Mais c'est vrai que ça peut être pesant si on fait que ça, parce qu'on emporte chez soi à chaque fois un petit peu de nos personnages, donc... Ça peut être très lourd au quotidien de porter...
Oui, ça a l'air d'aller. Vous avez l'air en pleine forme pour ce personnage. On vous a demandé des sons à chacune pour faire plus amplement connaissance. Ça commence par du cinéma, par de la danse, bien sûr, pour vous, Raphaël Baqué.
Good morning, we've gathered the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning.
Quelle est la raison de ce choix? Et qu'est-ce qu'on écoute, Raphaël Baqué?
Alors, on écoute notamment Jane Kelly qui danse, et je dois dire que
Les claquettes.
Oui, qui danse les claquettes. Et la comédie musicale a bercé mon enfance. Ma mère était folle de comédie musicale. Et j'ai la nostalgie et j'adore cette gaieté merveilleuse qui ressort de ces films. Et évidemment, la beauté, la souplesse, le chant de Gene Kelly qui est irremplaçable.
Vous avez fait de la danse ?
Oui, j'ai fait de la danse. Oui.
Des claquettes ?
Un peu des claquettes, oui, bien sûr. Avec de tels modèles sous les yeux, j'ai eu envie de m'y mettre aussi.
Et vous vous débrouillez pas mal ?
Oui, mais évidemment, je suis à 25 000 coudées de ces extraordinaires danseurs.
Vous continuez encore à en faire ?
Non, hélas.
Ah d'accord. Vous aussi, vous avez fait de la danse, Gaëlle Arquez ?
J'ai fait de la danse, pas de claquettes. J'ai fait un peu de classique étant petite, j'ai fait après du modern jazz, du contemporain, et là, actuellement, je suis dans le tango. Donc,
Ah oui, dans le tango. C'est... Un souvenir d'enfance pour vous, Gaëlle Arquez ? C'est bien ça, un souvenir d'enfance, ce sont ?
Oui, alors moi j'ai grandi donc au Sénégal et surtout en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 9-10 ans. Et cette chanson, on l'écoutait déjà à la maison. Et c'est vrai que quand je rentends cette sonorité, cette vocalité, ces percussions, voilà, ça me replonge dans une atmosphère. Et puis cette voix particulière d'Ismaël Lo.
Qu'est-ce que faisaient vos parents en Côte d'Ivoire ?
Alors mon père était professeur de mathématiques et ma mère était traductrice.
Très bien. Un son politique pour vous. J'ai l'impression de mener l'enquête. Philippe Goumard ce soir. Un son politique pour vous, Raphaël Baquet.
Au cri de liberté et de démocratie, ils sont près de 5000 à défiler sur la place centrale de Berlin-Est. Mais à peine le couple Gorbatchev reparti vers Moscou, la police charge et disperse violemment la foule. Il y aurait de nombreux blessés et l'on parle d'une centaine d'arrestations.
Ça sent le grand reportage, ça, Raphaël
Baquet.
Oui,
à vrai dire, c'est mes premiers reportages. J'ai eu de la chance, d'ailleurs, de commencer par, évidemment, la chute du mur en 1989. Et pas seulement la chute du mur, d'ailleurs, la chute du communisme à Budapest, à Prague, puis à Berlin. Alors ça, évidemment, bon, d'abord, ça a marqué ma génération. Et évidemment, ce formidable espoir. Et je me souviens que la première fois que je suis arrivée à Prague, j'ai une chance inouïe, j'ai rencontré Václav Havel, qui se cachait encore dans son théâtre. Et il était merveilleusement séduisant, avec son col roulé, ses cheveux blonds. Et moi, qui débutais, je pensais encore que, à vrai dire, il était en danger. Et je me souviens très bien qu'il m'avait dit mais détrompez-vous, c'est fini. Le communisme est mort. Alors que ça n'avait pas encore eu lieu, si vous voulez, il en était sûr. Et cette formidable certitude que la liberté était là, à portée de main, ça m'a évidemment marqué pour toute ma vie et ma carrière professionnelle.
Qui se poursuit aujourd'hui avec Karl Lagerfeld. Un son, peut-être un souvenir d'enfance ou une projection mentale pour vous, Gaëlle Arquez. C'est là où je vois que je suis d'une génération différente. Si on m'avait demandé de choisir une héroïne de Disney, j'aurais choisi les héroïnes chantées de La Belle au Bois Dormant ou de Blanche-Neige, mais pas Pocahontas. Qu'est-ce que ça représente pour vous, chanteuse aujourd'hui ?
C'est un univers. Moi, je garde toujours cette part d'enfant en moi et j'aime écouter ces bandes originales.
C'est un répertoire que vous pourriez chanter ?
Non. Bon. Enfin, pour mon plaisir personnel à la maison, mais disons qu'en tout cas j'ai été très vite sensible à ces voix et puis à cette orchestration, parce que bien souvent dans les dessins animés de Walt Disney il y a une orchestration derrière et on est tout de suite plongé dans un univers.
Il y avait des grandes chanteuses d'ailleurs qui ont interprété
tout
les titres.
Tout à fait,
même
on est proche de la comédie musicale.
Exactement. Ouais.
Donc je pense que ça a éveillé quelque chose en moi.
On va vous retrouver toutes les deux dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose Malik Djoudi, la nouvelle voix de la pop française, qui a rendez-vous avec son parrain Étienne Dao. Oui, un nouveau rendez-vous à tes côtés dans le NRV.
Ravi, cher ami. Jamais je te tournerai le dos, posé côté. Nous n'avons plus peur de rien. Mon panique, mon magique. Des réponses à nos questions. Si je suis largué, maintenant je sais. Je pourrais poser ma main sur ton épaule. Logique, organique. Jamais je te tournerai le dos. Posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien. C'est bon, ne t'en veux pas. Si j'oublie, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Existe, c'est bon, ne t'en veux pas. Insiste, je ne t'en voudrais pas. Non, si t'es Z, c'est bon, ne t'en veux pas. Si j'oublie, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Existe, c'est bon, ne t'en veux pas. Insiste, je ne t'en voudrais pas.
Le duo Judy Dao, que d'aider avant de retrouver Kaka, c'est-à-dire Kaiser
Karl,
avec Raphaël Baquet.
Rendez-vous.
Moi, je ne sais rien faire, je suis dessiné et parler. Sortez de là, je ne sais rien faire.
Laurent Goumard.
Comme je ne sais même pas faire un lit, je suis bien obligé d'être gentil avec mes femmes de chambre. Ma mère m'a élevé en disant tu ne dois rien savoir faire, comme ça, tu seras toujours obligé d'avoir assez de sous pour que les autres fassent pour vous. Je ne peux pas rentrer chez moi, je ne connais même pas les codes.
Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un code PIN.
Un quoi?
Un code PIN.
Non,
c'est le code pour tirer de l'argent ou pour
non, 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 ça marche pas avec les cartes que j'ai moi. D'accord. Les cartes que j'ai moi, je peux m'acheter une maison si je veux, mais je peux pas faire ça.
Sur France Inter.
Karl Lagerfeld, le roi du bon mot, un ton de voix, une voix et un accent un peu fabriqué, Raphaël Baquet, c'est ce que vous dites dans cette biographie, Kaiser Karl chez Albin Michel, un peu fabriqué, hein, parce qu'il ne parlait pas comme ça au départ.
Exactement, quand on écoute d'ailleurs ses premières interviews sur France Inter, où il a 24 ans, il a un accent beaucoup plus doux, l'époque où il s'applique au contraire à ne plus être allemand. Hein, et donc,
c'est l'époque où il s'appelle Roland.
Voilà, il se fait appeler Roland Karl, et bien sûr, c'est aussi une période où on dit encore les boches à Paris. Donc, bien sûr, il s'efforce d'effacer ses origines.
Il fait croire qu'il est suédois. Qu'il est suédois.
Oui, et il dit franchement que son père est suédois, une autre fois danois. Il s'invente d'une certaine façon d'autres origines. Il veut tout dire sauf allemand. Et ce n'est qu'après, que bien plus tard, qu'il cultivera cet accent beaucoup plus heurté et qui lui donne effectivement cette allure d'aristocrate d'un autre temps.
C'est assez drôle parce que chaque fois qu'on entend quelqu'un parler de Karl Lagerfeld, au bout d'un moment, comme vous venez de le faire, on se prend à l'imiter. Vous-même, j'imagine, dans les gens que vous avez rencontrés, c'est la même chose.
Sans cesse. Chaque témoin, au bout de quelques minutes, commençait effectivement à prendre l'accent, le phrasé de Karl Lagerfeld.
Alors, pour cette biographie qui fait suite donc à la série que vous aviez initiée dans le monde sur les visages de Karl Lagerfeld, vous aviez eu un entretien avec lui. Combien de temps il a fallu négocier pour avoir un entretien avec lui?
une bonne dizaine de mois, à vrai dire.
Et presque un an. Ouais.
Voilà, parce que évidemment, il était méfiant, parce qu'il ne me connaissait pas. Je ne suis pas une rédactrice de mode, donc il lisait Le Monde. Donc
on essaie d'être honoré.
Voilà,
quand même.
Il était à la fois flatté que Le Monde s'intéresse à lui et en même temps effectivement méfiant puisque jusqu'ici, il avait quand même empêché toute biographie et pratiquement contrôlé toutes les enquêtes sur lui.
Vous étiez contente de l'entretien que vous avez mené avec lui ?
C'était intéressant de le rencontrer, d'abord pour cette espèce de cérémonial incroyable, si vous voulez. Il arrivait avec 2 heures de retard. Avec
vous en tirez bien
allure,
ça peut être 7 heures
oui,
de retard.
Ah bah oui, mais 2 heures de retard, cette allure insensée, avec ses lunettes, ses mitaines, 3 bagues à chaque doigt. Et puis, il avait enlevé ses lunettes pour me laisser supposer qu'il allait me dévoiler une part de son intimité. Évidemment, c'était tout à fait faux. Ce qui était intéressant, c'était de voir ce mélange de charme et parfois de menaces ou d'intimidation lorsque j'arrivais sur des questions auxquelles il ne voulait pas répondre.
Les questions auxquelles il ne voulait pas répondre, j'imagine, c'était le rôle de son père pendant la guerre, sa famille.
C'était ça et aussi sa succession. C'était d'une certaine façon les deux bouts de sa vie, si vous voulez, à la fois son enfance et sa mort prochaine, il faut bien le dire. Et ça, cette idée de qu'est-ce que Chanel allait bien pouvoir devenir après lui ? Est-ce qu'il avait pensé à son successeur ? Est-ce qu'il avait préparé d'une certaine façon la suite ? Il ne voulait pas l'envisager.
Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Lagerfeld se livre à un de ses exercices favoris, c'est-à-dire faire parler sa mère. Et vous y revenez dans la biographie, sa mère c'est un peu la femme de Columbo. Hein. On en parle beaucoup mais on ne la voit jamais. Elle lui disait, alors enfant, il raconte dans votre bio, « Enfant, je portais des chapeaux tyroliens et ma mère m'a dit un jour, tu as l'air d'une vieille lesbienne. » Ma mère disait, il a un gros ventre. Ma mère disait, donc elle me faisait dormir avec des ceintures, ou ma mère a essayé de m'initier au piano. Un jour, elle a refermé le couvercle du clavier sur mes doigts et m'a dit, dessine, ça fait moins de bruit.
En fait, c'est vraiment
la construction d'une mère, une fois qu'elle a disparu d'ailleurs.
Cette mère est tout à fait réinventée,
bien sûr.
D'abord, elle est évidemment importante pour Karl Lagerfeld, puisque dès la mort de son père, il l'a fait venir à Paris.
Il a vécu avec sa mère.
Et il vit avec elle.
Ouais, c'est
et
psychose.
Il vit avec elle. Alors, c'est évidemment, ça frappe absolument tout le milieu parisien, puisque c'est l'époque des années 60 et 70, de la liberté sexuelle, des fêtes déjantées. Et lui, il est déjà avec ses chemises à haut col, et cette mère extrêmement élégante, qui prend le thé avec les visiteurs. Donc vraiment, évidemment, ça surprend tout le monde. Mais elle est beaucoup plus classique que le personnage qu'il a bien voulu réinventer ensuite, si vous voulez. Dès qu'elle est morte, effectivement, alors là, il lui a recomposé un passé. Il en a fait parfois une femme qui conduisait toute seule son avion, qui était une grande violoniste concertiste, enfin vraiment, et surtout une
la reine
mère
des bonbons,
castratrice
avec des bonbons, une sorte de John Crawford absolument délirante.
Elle était à la fois moins terrifiante et sans doute moins douée qu'il ne le voulait, mais ça montre bien qu'il a à la fois voulu construire une femme idéale, qui était sa mère, et surtout aussi bâtir un écran de fumée pour éviter qu'on parle de son père.
Pour éviter qu'on parle de son père, et d'ailleurs on en parle très peu, il n'est pas allé à son enterrement. D'ailleurs il n'est pas non plus allé à l'enterrement de sa mère.
Non.
Bien heureux qu'il soit allé au sien, propre, et encore pas selon ce qu'il avait décidé, hein, parce que tout le cérémonial qu'il y a eu autour de son enterrement, il n'en voulait pas.
C'est un homme qui était obsédé par la mort et la maladie. Mmh. Et donc, la moindre collaboratrice qui avait un rhume était écartée du bureau pendant 8 jours.
Je devrais faire ça.
Lui-même a caché très soigneusement son cancer hein, à tout le monde. Il s'est soigné tout seul avec ses médecins. Et évidemment, la mort était un grand tabou. Et d'une certaine façon, il laissait supposer qu'il se croyait immortel. Il regardait sans cesse, et ça je me souviens qu'on en avait parlé ensemble, il regardait des documentaires sur les centenaires. Il était passionné par ça, non pas pour découvrir le secret de leur alimentation, mais il était très frappé de ce que les centenaires, presque toutes, parce que c'est souvent des femmes, répétaient qu'elles étaient surtout curieuses de ce qui allait passer. Elles étaient avides de modernité, de connaissances, jamais tournées vers la nostalgie, et c'est ce à quoi il s'est appliqué.
Vous avez rencontré ses sœurs, parce qu'il s'est fait longtemps passer pour fils unique.
Elles sont mortes. Elles sont mortes, mais effectivement, il n'a plus de famille, mais elles étaient parties aux États-Unis déjà depuis longtemps. C'est une famille allemande qui a vécu ce qu'ont vécu toute une génération allemande, c'est-à-dire l'exil, le départ de ce pays honteux et détruit après la guerre.
Un livre est paru il y a quelques années et vous y faites référence, c'est celui d'Alicia Drake, The Beautiful People, Splendeur et Misère de la Mode. C'est disponible encore aujourd'hui en folio, je crois. Il a mené bataille férocement contre ce livre. Il en a expurgé des passages, je crois, ici pour la publication en France. Les rédactrices de mode se sont aplaties devant lui. Presque personne à l'époque n'a mentionné ce livre. Qu'est-ce qu'on y apprenait qu'il ne pouvait supporter ?
C'est incroyable. C'est d'abord un excellent livre.
Ah, c'est un livre formidable.
Un très bon livre qui raconte le milieu de la mode et d'une certaine façon de la nuit des années 60 et 70. Et donc, qui parle de Karl Lagerfeld, de Saint Laurent, de Kenzo, de tous ceux qui ont hanté cette période-là. Et il a détesté qu'on raconte notamment, au fond, que... Et à une certaine période, et notamment dans les années 60, les débuts de sa cour, si vous voulez, notamment le grand illustrateur Antonio Lopez, qui était une de ses premières muses, et celui qui l'a initié vraiment à l'illustration, alors que Karl était déjà un très grand
très bon
dessinateur,
bien sûr,
un très grand dessinateur.
Puisque même
racontait qu'ils avaient fini par se moquer de lui, de son allure tout à fait excentrique, de ses afféteries. Et ça, il ne supportait pas ça, et il a effectivement... Il lui a fait un procès et il a obtenu qu'on gomme une partie des passages le concernant et qui vous paraîtrait non pas anodin, parce qu'encore une fois c'est un très bon livre, mais qui vous paraîtrait pas du tout dévastateur sur lui.
Alors il y a une relation qui éclaire aussi la façon dont il s'est construit physiquement avec la panoplie. C'est Andy Warhol qu'il rencontre à Paris et qui l'a fait tourner dans son film. Quelle importance aura eu Warhol sur la construction plus tard de Karl Lagerfeld, Raphaël Baquet ?
Warhol, à l'époque, est déjà le grand artiste contemporain qu'on connaît, mais c'est aussi le roi de la communication, d'une certaine façon, à une époque où le mot n'est pas encore passé complètement dans les mœurs. Vous voyez son allure, hein, il se promène avec une perruque blond platine, il a un petit magnétophone avec lequel il enregistre absolument tout le monde, et il travaille des aphorismes qu'il délivre aux médias. Quand Warhol arrive à Paris, évidemment c'est un événement, il connaît Saint Laurent, qui est déjà extrêmement célèbre, il n'a jamais entendu parler de Karl Lagerfeld. Mais on lui présente Lagerfeld, et Lagerfeld d'ailleurs lui propose son merveilleux appartement. Lagerfeld vit déjà sur un très grand pied pour tourner ses films. Et Warhol est tellement séduit par cette allure de baron allemand que Lagerfeld s'est composé qu'il
musclé
le fait jouer.
Aussi, parce qu'il était très beau, musclé.
Oui. Il est musclé, il va à la piscine de Ligny tous les après-midi.
Avec des mules en talons.
Avec des mules à talons, il est tout à fait spectaculaire. Et Warhol, évidemment, ça plaît beaucoup à Warhol qui le fait tourner, qui lui fait jouer un rôle d'aristocrate, qui embrasse langoureusement une jeune femme. Et d'ailleurs, quand on regarde le film est très mauvais, il faut bien le dire. Ça ne passe pas la rampe du temps, mais Lagerfeld est très bon. Et Lagerfeld, lui, s'en tire très bien. Mais évidemment, il a observé Warhol, cette façon de se composer un personnage, de le construire, de préparer ses bons mots. Et c'est ce qu'il va... Il va être son meilleur élève, d'une certaine façon. C'est à partir de là, à partir de cette rencontre, qu'il va composer ce qu'il appelait son déguisement. Hein, c'est-à-dire cet éventail, bientôt ses cheveux noués en catogan, et bientôt ses cols hauts, et ses aphorismes, que lui aussi distribuait et préparait très soigneusement avant toute interview.
Ce qu'il a aussi en commun avec Warhol, c'est la mère. C'est-à-dire que Warhol aussi a reconstruit plus ou moins sa
Warhol,
mère.
Warhol, lui aussi, il vit avec sa mère et adore voir ce Lagerfeld qui vit avec la sienne. Et d'ailleurs, ils ont d'une certaine façon aussi des points communs. Ouais. Hein. La mère de Warhol vient d'Europe centrale. Il aime rencontrer cette femme allemande assez chic. Et ils ont effectivement beaucoup, beaucoup de points communs. Et Warhol va, et Lagerfeld va très largement s'inspirer de ce que Warhol a initié.
Alors, c'est un Lagerfeld solitaire, extrêmement solitaire. Il a eu une histoire d'amour qu'il n'a jamais consommée avec Jacques de Bacher. On va peut-être y revenir. C'est une info du travail, ce qu'il disait. Il ne baisse pas, il ne se drogue pas, il ne boit pas, donc tout est dans le travail. Je sais que vous avez rencontré Sébastien Jondot, qui était l'homme qui lui a été fidèle jusqu'au bout. C'était l'homme, pas à tout faire, mais à la fois...
Son garde du corps.
Oui. Celui qui dînait avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a raconté qui a pu vous surprendre ?
L'extraordinaire solitude de Lagerfeld. Ouais, c'est-à-dire que cet homme qui était devenu une icône mondiale, hein, vraiment connu au fin fond de l'Asie, toujours entouré dans le travail, vraiment fréquentant à la fois les grands capitalistes ou les mannequins renommés, rentrait tous les soirs dans son vaste appartement donnant sur le musée du Louvre et dînait seul avec son garde du corps. Et ça, évidemment, cette solitude voulue par Karl Lagerfeld est aussi la marque des puissants. Et c'est vrai qu'il n'aimait pas qu'on l'appelle Kaiser, Karl. Mais à vrai dire, ce surnom d'empereur lui va comme un gant. Hein. Il avait construit un empire, il avait une cour dont il adoubait et bannissait les uns et les autres, et il connaissait cette solitude que connaissent les grands de ce monde.
Alors, on n'a pas parlé de la mode, parce qu'en fait, compte, peut-être qu'il y a peu de choses à en dire. C'était un excellent technicien, un mercenaire qui a vraiment remonté des boîtes qui avaient fait faillite, ou presque. Chanel, quand il l'a reprise, ça ne valait absolument plus rien. Il a fait vivre Chloé au moment où la haute couture était en train de se casser la gueule. Il a fait vivre une maison de prêt-à-porter. Pour autant, il n'aura rien inventé comme Saint-Laurent, par exemple, au niveau de coupe. Il n'aura pas inventé la saharienne, il n'aura pas travaillé le tailleur, enfin, etc., etc. Donc, on se demande toujours qu'est-ce qu'il va rester de lui. Et ce qui est important.
Il n'aura pas inventé un vêtement.
Non, mais il aura
accompagné, si vous voulez, l'évolution mutation de la mode d'un artisanat à une industrie.
Il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que tous les deux, à l'époque, Saint-Laurent et Lagerfeld, sont amis. Avant d'être les rivaux que l'on a pu connaître par la suite, une rivalité exacerbée par Pierre Berger notamment et Jacques de Bachère, ils vont voir une voyante. Et qu'est-ce qui est dit par cette voyante ?
Oui, et cette voyante,
c'est quand même dingue.
Lagerfeld assure que ils étaient trois d'ailleurs pour voir cette voyante, c'est-à-dire Saint-Laurent, Pierre Berger, le compagnon déjà et mentor de Saint-Laurent, et lui. Et la voyante affirme devant eux trois à Saint-Laurent, bah pour vous c'est formidable, ça marche. Et elle se tourne vers Lagerfeld et elle dit. Pour vous, ça commencera quand les autres auront terminé. Et alors, évidemment, il a gardé ça toujours en mémoire et il le répétait chaque fois qu'on lui parlait de Saint-Laurent, qui a été son aiguillon éternel pendant 40 années. Hein. Et c'est vrai qu'il s'est véritablement épanoui et il a pris toute sa dimension lorsque Saint-Laurent s'est peu à peu retiré de la mode et mieux, si je puis dire, lorsque Saint-Laurent est mort.
A complètement disparu. Vous restez avec nous, Raphaël Baquet. On va parler opéra dans quelques instants. Mais musique tout de suite, puisque c'est l'heure de l'algorithme de Marion Guilbeault.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Marion ?
Vous avez rendez-vous ?
Rendez-vous ?
On peut avoir de la musique ?
Bien sûr. Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits.
Phil Collins, Kate Jarrett.
Le nouveau rendez-vous ?
Vous aimez Mozart ?
Oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Sur France Inter.
Un exercice de style pour Marion Guilbeault.
Raphaël Baquet, je vous rappelle juste le principe de l'algorithme musical. Je vais partir de ce qu'il y a dans votre ADN musical, ce que vous écoutez, pour essayer de vous proposer quelque chose de nouveau, d'essayer d'aimer peut-être. Et votre algorithme, vous, il commence en live avec un concert, le tout premier auquel vous avez assisté. Ils étaient trois, ils étaient blondes platines. Et en 1978, en pleine vague punk, ils vont partir à contresens et ils vont rafler la mise avec ce titre. The Police, Roxanne. C'est votre premier concert, donc.
Ah oui, et franchement, j'étais au lycée. Mais c'était un concert au Bataclan. Ils étaient tout à fait inconnus et j'y suis allée avec ma sœur, je sais pas, sur la foi d'une copine. Et alors, vraiment, immédiatement, on a su que c'était un phénomène. Ça se voyait tout de suite. Ils étaient vraiment extraordinaires. Un son tout à fait inédit. Et c'est toujours intéressant d'aller entendre un concert dont on ne connaît pas au fond le groupe, j'avais aucune idée de ce que j'allais écouter, et de comprendre immédiatement qu'ils vont changer quelque chose dans la musique.
Vous avez votre premier concert, Gaël Arquet, c'était qui ?
Ah, c'était Charles Aznavour, avec ma mère, elle m'avait emmenée, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans, et très beau souvenir.
Bon, mon dernier concert, c'était hier, justement avec Sting,
ah oui,
en duo avec Mylène Farmer.
Ah oui,
en duo, oui.
Pas mal. Alors, dans votre ADN musical, Raphaël Baquet, on trouve beaucoup de choses. On trouve aussi le chanteur Christophe, on trouve le groupe O2N, mais vous avez aussi des plaisirs coupables.
C'est
et c'est souvent ceux-là, voilà, qui en disent long sur ceux qui les goûtent. Le vôtre est un crooner qui a fait fantasmer le monde entier pendant plus de 50 ans de carrière. Il a chanté en 14 langues, enregistré 80 albums, reçu plus de 2600 disques d'or et de platine, mais malgré tous ses succès, il n'a pas changé.
Et l'amour, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar.
El amor. Julio Iglesias, en espagnol, parce que vous ne l'aimez qu'en espagnol?
Je trouve qu'il est beaucoup plus poignant, plus profond en espagnol. En français, il y a toujours un petit côté sirupeux et presque un peu ridicule qui prend le dessus, alors qu'en espagnol, je trouve qu'il est merveilleux.
Il est plus Almodovar que...
Oui. Je suis assez d'accord. C'est pas forcément mon style de musique, mais.
Oh bah, dedans, quand on aime Pocahontas,
ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que je trouve que, moi, quand je l'entends en français, il y a un petit côté kitsch, qu'on n'a pas du tout quand il est dans sa langue espagnole.
Vous l'avez rencontré, Raphaël Baqué?
Non, jamais. C'est vraiment mon plaisir caché. Ça m'intéresserait d'ailleurs de le rencontrer parce que je trouve que...
De le raconter, vous avez
et de le raconter, c'est vrai aussi parce que un homme comme ça qui touche d'une certaine façon le monde entier ouais. par sa voix, par les sentiments qu'il exprime, je trouve ça très fort.
Alors j'ai remarqué qu'il y avait une constante dans votre ADN musical, c'est le mode mineur, beaucoup de piano aussi, vous en jouez d'ailleurs. Votre idole absolue, ce n'est ni Sting ni Julio Iglesias, mais c'est Claude Debussy, le musicien qui a révolutionné la musique. Et je pense que vous pourriez peut-être être sensible à la proposition en clair-obscur d'une jeune française. Elle s'appelle Anna Benab Del Karim, alias Silly Boy Blue, c'est le nom de son projet solo. C'est une fan de David Bowie, elle est aussi journaliste, et elle écrit depuis sa chambre une pop sombre, mystérieuse, nostalgique, comme un exutoire à ses émotions les plus profondes et les plus enfouies. Ça sonne comme des nocturnes contemporaines.
J'admire votre finesse d'analyse, parce que ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très très chouette, ouais.
Le titre s'appelle Cecilia, c'est extrait de son premier maxi, Bat Your Will. Ça vient de sortir et les choses se précipitent pour elle, parce qu'elle est lauréate des Inouïs du Printemps de Bourges. Elle sera en concert au Fnac Live à Paris le 4 juillet, au Francophonie de la Rochelle le 12, et à Rock en Seine le 23 août. Et du coup, vous allez repartir avec...
Vous avez droit à l'album, vous êtes gâtés, parce que c'est pas toujours le cas, ils sont toujours dématérialisés.
Merci.
On va parler opéra avec Gaël Arkels dans quelques instants, mais tout de suite, je vous propose d'écouter du 100% bengali, de la 100% irlandaise, 100% dans la musique. Joy Crooks donne tout sur France Inter.
Bangla noise on Brick Lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey at this, lovers walk or camp road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down 9 to 5, and your weekends are spent loading up with the boys, with the bottle and bends. Only way to cope, cause this city don't stop for no one. Street light down Madeira I go. I've been fooled by the charm of the Kennington Road, while the backstreet drama don't get picked up by the sun. Hopeless, roaming around in the moment.
I'm hopeless, roaming around in the moment. Streets that are tailored to no one, but that's what makes London mine. Oh, if I'm hopeless, lost in the fear of the open world that appears to be broken, but that's what makes London mine.
London Mine, signé Joy Crooks, un extrait de son premier EP, Perception.
Rendez-vous. Laurent Goumard.
C'est après de voir le jeune pays de l'Empire, enfin de ce grec, adieu, par les sans doute, au sacrifice affreux que mon âme est
sur France Inter.
Eh oui, un extrait des répétitions pour vous, Gaël Arquez, qui chantait Iphigénie en tauride au Théâtre des Champs-Élysées, une série de représentations qui commenceront du 22 juin au 30. Bien oui. Passé les répétitions ?
Très bien. Là, ce qu'on entend, c'est que je jette une épée au sol, donc ça provoque pas mal de bruit. Mais non, les répétitions sont très bien passées.
À la mise en scène, Robert Carsen, oui. Qui est un habitué des grandes mises en scène d'opéra, pas de problème ?
Ah non, aucun.
D'accord, vous le diriez ? Bien sûr, s'il y avait eu des problèmes.
Bah oui, mais a priori, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Donc,
ouais, il y en a plein qui connaissent leur métier et qui ne sont pas si faciles que ça.
Oui, mais je pense que le Théâtre des Champs-Élysées, qui a l'habitude de travailler avec de jeunes chanteurs, sait faire des combinaisons artistiques qui fonctionnent. Donc non, tout va bien.
Vous êtes sensible au metteur en scène quand vous acceptez une production ?
Oui, et ça m'est récemment arrivé de refuser un projet parce que le metteur en scène... voulait des choses beaucoup trop au-delà de mes limites. C'est-à-dire, c'était un metteur en scène qui faisait des choses explicitement sexuelles, par exemple, sur scène, qui, moi, ne m'intéressent pas. Donc ça, c'est vraiment, après, personnellement, des limites que je n'ai pas spécialement envie de franchir. Mais quand un metteur en scène propose un univers qui m'intéresse, là, au contraire, je m'y plonge à cœur perdu.
Le chant, ça commence quand pour vous, Gaël Arquez ?
Le chant, alors à la base je suis pianiste, mais le chant est arrivé quand j'étais adolescente. Comme toute adolescente, j'aimais chanter avec mes amis ce qu'on entendait à la radio.
Et qu'est-ce qu'on entendait à la radio à cette époque ?
Oh, c'était de la pop, c'était les premiers Mariah Carey, Whitney Houston, ces chanteuses à voix, ce côté un peu diva quelque part avant l'heure. Et non, j'étais fascinée par leur prouesse vocale, vraiment. Et en fait, c'est arrivé suite à un spectacle dans mon conservatoire où j'ai dû chanter une comédie musicale. Et le professeur de chant était dans la salle, donc elle est venue me voir et elle m'a dit « Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'art lyrique ?» Donc j'avais 16 ans et je lui dis non, mais moi c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi ce qui m'intéresse c'est la musique actuelle. Et il a fallu une année de réflexion et puis j'étais un petit peu encouragée par ma maman qui elle est vraiment amateur d'opéra et de musique classique. Et je me suis dit après tout, peut-être que cette technique pourra m'aider à chanter autre chose que du classique, sait-on jamais. Et puis en fait ça a été...
Et vous êtes restée dans cette voie-là.
Ça a été un coup de foudre, mais quasiment immédiatement.
Quelle était la place de la musique dans votre famille justement ?
Alors, je viens pas d'une famille de musiciens. Ma mère en écoutait beaucoup à la maison, surtout quand on était en Afrique. Donc, j'ai écouté toutes sortes de musiques, des musiques du monde, du rock, de la pop, de la musique classique, de l'opéra. Et puis, on chantait beaucoup à la maison, mais pareil, plutôt des chansons françaises, mes oncles à la guitare, en fin de dîner, comme ça. On se retrouvait tous en famille et on chantait ensemble.
Votre voix a évolué, vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, au départ soprane, aujourd'hui mezzo. À quel moment s'est fait le changement ? Est-ce qu'il y a un événement particulier ?
Alors, ma voix a toujours été un peu ambiguë, j'ai envie de dire. Il y a des identités vocales qui sont, pour la plupart des chanteurs, très, très distinctes. Pour ma part, c'était pas le cas, et donc pendant toutes mes études, j'ai commencé en tant que soprano, ce qui est la catégorie la plus classique pour les voix de femmes. Et puis c'est vrai que j'avais un timbre qui posait question, c'est-à-dire un timbre corsé, mais avec une tessiture un peu aiguë. Et donc par le répertoire en fait de la musique baroque et classique, chez Mozart, il n'y avait pas de distinction en fait entre mezzo et soprano. J'ai pu m'intéresser à un répertoire un peu plus central, et puis ma voix s'est développée, et puis là, il a fallu se rendre à l'évidence.
Le répertoire du bel canto, vous l'avez déjà travaillé ?
Alors, j'ai fait une incursion dans le bel canto il y a 2 ans.
En travaillant qui ?
Avec l'opéra Norma de Bellini.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
En classique du bel
canto. Et ça a été une très très belle expérience, parce que je pensais pas que ma voix allait correspondre à cette esthétique vocale.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas, parce que à la base le bel canto, j'aime l'écouter, mais le chanter, moi ce qui me plaît avant tout, c'est pas forcément la virtuosité de la voix, c'est le texte, c'est le théâtre. Et donc dans le bel canto, c'est un peu le côté qui pêche un petit peu, c'est-à-dire que c'est la voix et la beauté de la voix, évidemment, de la ligne qui prime. Donc j'étais agréablement surprise.
C'est pour cette raison que vous avez donc privilégié le répertoire baroque, où là le texte est véritablement important.
Et là oui, il y a quand même
du texte.
Il y a du texte, il y a une qualité de livret qui est agréable, et quand on aime être mise en scène et le côté théâtre, le côté travail d'acteur, là on a de la matière, en plus d'une belle partition.
Raphaël Baquet, vous allez à l'opéra de temps en temps ?
Ah oui, j'aime beaucoup, mais j'admire, j'aime vous entendre en parler, mais j'aimerais vous poser une question. À vrai dire, je regardais vous écouter. Est-ce que c'est difficile de s'écouter comme les acteurs ou les actrices qui disent que c'est difficile de se regarder au cinéma?
C'est toujours difficile. On s'habitue avec le temps parce qu'on a appris à travailler avec notre voix et à s'enregistrer pour des cours, pour se perfectionner, parce qu'on s'entend toujours différemment. On s'entend de l'oreille interne, évidemment, dès qu'on s'entend sur un enregistrement, on se dit mais non, mais c'est pas moi, c'est pas possible, c'est pas ma voix. Et donc, il faut s'habituer à travailler avec ce support externe. Donc, on apprend à faire avec, mais c'est toujours un exercice un peu délicat.
Est-ce qu'il y a des répertoires que vous vous interdisez encore parce que vous êtes une toute jeune chanteuse? Wagner, par exemple.
Oh, Wagner, je ne sais pas si j'aborderai ce répertoire.
Ah oui, carrément.
C'est un répertoire très très lourd, et puis les œuvres sont très longues. Il faut généralement, quand on aborde Wagner, c'est très difficile de revenir à d'autres compositeurs, parce que ça modifie presque la voix.
C'est-à-dire, c'est aller sans retour, quoi.
C'est tellement énorme à chanter Wagner, tellement. C'est des œuvres qui peuvent durer 5 heures, enfin 5 heures sur scène. Il faut s'imaginer les répétitions. Enfin, il faut une endurance quasi marathonienne. Donc ça me fascine, et en même temps, je ne sais pas si c'est vraiment là que j'ai envie d'aller. Il y a tellement de répertoires à explorer que, pour le moment, je m'interdis rien. La route est longue, donc il faut aussi apprécier chaque étape, et on verra bien où la route me mènera.
Alors, il y a un personnage qui revient dans votre parcours. On écoute. C'est Carmen, vous l'avez chanté plusieurs fois. On écoute un extrait.
Mon amour, il est au diable. Je l'ai mise à la portière. Mon pauvre cœur est inconsolable. Mon cœur est libre comme l'air. J'ai des galants à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine. Qui veut m'aimer, je l'aimerai.
Raphaël Baquet, vous faisiez juste un commentaire sur la voix qu'on entend, celle de Gaëlle Arquez.
Oui, je trouve que lorsque vous chantez, en tout cas Carmen, alors évidemment c'est probablement lié au rôle, mais vous avez une espèce de profondeur et de maturité qui est assez décalée avec la voix que vous avez lorsque vous parlez,
oui.
Beaucoup plus douce, presque une voix de jeune fille.
Que vous êtes.
C'est une jeune fille. Non, mais c'est tout à fait vrai. Mais vous avez une ampleur et une maturité différente lorsque vous chantez, manifestement.
Vous l'avez chanté en gorille.
Ah ça, les metteurs en scène ont parfois des idées un peu farfelues, mais oui, tout à fait. Heureusement, c'était pas constamment gorille, mais la fameuse scène de la Banera, oui, j'étais surprise quand on m'a annoncé que pour une production, j'allais faire cette scène en costume de gorille.
On vous a expliqué le pourquoi et
alors
comment.
Ça se passait dans un cirque,
Oui.
Mais c'est vrai que c'est très particulier. On sent surtout le personnage mythique de Carmen, de la femme fatale. On se dit Bah comment ça, expliquez-moi. Comment passe-t-on de la femme fatale à un costume de gorille? Donc voilà, c'est aussi ça qui est passionnant à l'opéra, c'est qu'on peut prendre un rôle qui parle à chacun et prendre complètement le contre-pied. Donc
vous l'avez chanté aussi sur un lac, oui. Le lac de Constance. Oui. Faut dire que c'est vraiment, vous l'avez travaillé dans plusieurs registres.
Ben c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que d'une production à l'autre pour le même rôle, j'ai pas du tout l'impression de faire le même personnage.
Quelle est l'idée de Carsen sur l'Iphigénie que vous chantez dans quelques jours au Théâtre des Champs-Élysées?
Alors là, dans cette production, on est très proche du théâtre grec. Ouais. Donc le décor est très épuré. Clairement, il n'y a aucun accessoire à part des épées
que vous jetez au sol et qui font un bruit d'enfer.
Tout à fait. Et donc ce décor, ces murs immenses peints en noir, créent une espèce de boîte d'étouffement qui correspond très très bien à ce sentiment qu'a mon personnage Iphigénie, qui est prisonnière de ce destin, prisonnière d'une histoire familiale horrible. Et donc tout se joue, on n'a aucune distraction visuelle en fait. C'est vraiment, on est au plus proche du théâtre. Et pour moi, c'est ce que je préfère. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'artifice.
Eh bien, on aura bien compris. On vérifiera tout ça du 22 au 30 juin. Iphigénie en Tauride, au Théâtre des Champs-Élysées. Vous restez avec nous toutes les deux, Gaëlle Arquez et Raphaël Baquet, car tout de suite, on va parler musique africaine. Et je crois que ça peut vous plaire, Gaëlle Arquez.
Oui.
Vous pourriez mettre un disque?
Oui.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
L'Afrique en solo pour la chronique de Soro Solo qui est de retour avec nous après avoir voyagé en avion et s'être perdu dans des aéroports. On est bien content de vous retrouver. On arrive à la fin de l'année. On s'est dit, on va pas le récupérer. Cette fois-ci, au programme, le 13e festival Jazz Kiff de Kinshasa.
Oui.
Vous avez découvert qui?
J'ai découvert un certain Lova Lova. Et à ce festival, cette 13e édition, bien entendu, on a dansé sur de la rumba, mais aussi de l'électro et, bien entendu, les tendances urbaines en Afrique. Et le leader de Lova Lova s'appelle Wilfried Luzele. Figurez-vous, comme beaucoup de gens, il a commencé à chanter dans l'église de son quartier. Mais c'est en même temps dans cette période d'église où il a développé un peu le chant des rappeurs, la prise de parole, etc. Mais il finit par rentrer à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa parce qu'il est designer, sculpteur, peintre, performeur, etc., etc. Et il finit par s'orienter en musique et prend le pseudonyme de Lova Lova. Bien entendu, comme beaucoup de jeunes, des trentenaires, il se met hors sol de la rumba classique congolaise. Et donc propose un style qui est plutôt métissé. Il emprunte au rock, au raga et aussi aux musiques traditionnelles congolaises.
Chike maji telala Mime wabende ngani wangi tabau
Maia wabende ngani yako ni mamau
Walu wa makute ngani wangi tabau
Maia wabende ngani yako ni mamau
Walu wa mala ngani wangi tabau
Mime wabende ngani wangi tabau
Gaëlle Arquez, ça vous plaît?
C'est original.
Ouais.
Je connaissais pas du tout.
Ouais, on peut trouver des musiques mélangées, ouais, métissées comme ça sur l'ensemble du continent africain, en est, à l'ouest, au nord, au sud. Et Mémé Wabene, c'est ce titre qui ouvre l'album de Lova Lova.
Et il parle de quoi cet album?
Ben, vous savez que, comme dans beaucoup de pays du monde, il y a pas mal de problèmes socio-économiques en République démocratique du Congo. Donc, Lova Lova, il dénonce toutes les conditions de vie insupportables des Congolais et en même temps, il interpelle tous les politiques pour qu'ils agissent sur ces problématiques. Bien entendu, il indexe les Congolais et les Africains dans leur généralité. Tous ces Africains qui sont complexés, qui prennent des produits chimiques pour se décolorer la peau et devenir des blancs. Et comme le Congo est riche, tout le monde le sait, le diamant, l'or, le coltan, il y a de ces richesses dans ce pays, mais ces richesses sont pillées non seulement par les cadors locaux nationaux, mais aussi par les multinationales.
Ils ont tout pris. Ils ont pris le diamant, ils ont pris le cobalt, il ne reste plus rien. Les maïs et les arachides, ils ont tout mangé. Ils nous ont laissé rien, mais vide. Nous tous, mais vide, on commence à se trimballer partout dans le monde. C'est notre terre. Mais on devient des nomades.
Oui, Lova Lova, c'est ainsi. Avoir un œil critique et veiller à exhorter la jeunesse vont de pair dans la démarche de cet artiste.
Salam Osala, c'est en Lingala. Ça veut dire fais ton travail. C'est une chanson rock où je donne du punchline à mes amis, où je leur dis, allez, vas-y, travaille. C'est le travail qui donne la personnalité à l'homme. C'est le travail qui donne de la valeur à l'homme. C'est une chanson vraiment motivante où je dis, Salongo, Salamosala, Kabuita Bukambel, Chimaniwan, Minirike Ripweni. Ça veut dire, si tu dors, personne ne travaillera à ta place. Regarde les fourmis, comment elles travaillent.
Voilà, c'est un lingala Kizoba Zoba désigne un assemblage de plusieurs tissus, donc un patchwork. Et pour Lova Lova, ces titres incarnent donc le métissage de cet album aux multiples influences musicales.
Merci Soro Soulo, on se retrouve mercredi prochain, ce sera la dernière pour vous et pour nous hein, de l'année. Vous chantez vous aussi?
Oh, ça m'arrive de faire des chœurs, mais je chante tellement faux que je m'éloigne du micro.
Merci, merci à vous Raphaël Baquet, merci Gaëlle Arquez. Vous l'avez compris, le NRV première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes, ce sera après le journal. Et on va se retrouver, eh bien avec ça.
On reconnaît que l'algue verte tue réellement.
Algue verte, plastique, pollution, la mer à mort. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.